Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 2 août 2022. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer, les titres. Ayman Zawahiri, leader d'Al-Qaïda, a été tué dans une frappe de drone, annonce le président américain Joe Biden. Au Sénégal, le camp présidentiel et l'opposition campent sur leur position après les législatives de dimanche. En Guinée, deux leaders, dont collectif, écroués après des manifestations sanglantes. Le putsch a échoué au Soudan, selon le numéro 2 du pouvoir militaire, Mohamed Hamdan Daglo. En Afrique du Sud, 4 personnes ont été tuées par balle lors d'une manifestation contre la vie chère. Ne manquez pas notre page de sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président américain Joe Biden a annoncé en direct à la télévision lundi la mort du chef d'Al-Qaïda, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drone. Il s'agit, Jean-Roger Bion, d'un nouveau coup porté à l'organisation terroriste.
Samedi, sous mes ordres, les États-Unis ont mené une frappe aérienne sur Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Le président Joe Biden annonça à la Maison-Blanche la mort du successeur d'Oussama Ben Laden à la tête d'Al-Qaïda. Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus, a souligné M. Biden. Sa mort permettra aux familles de victimes tuées le 11 septembre 2001 dans les tours jumelles du World Trade Center à New York et au siège du Pentagone près de Washington de tourner la page, a ajouté Joe Biden. L'opération n'a fait aucune victime civile, a précisé M. Biden lors de son allocution. Zawahiri était l'un des terroristes les plus recherchés au monde et les États-Unis promettaient 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver. Il avait pris la tête de la nébuleuse djihadiste en 2011 après la mort d'Oussama Ben Laden, tué par un commando américain au Pakistan.
We make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide.
Nous disons encore clairement ce soir que peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous constituez une menace contre notre population, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront. L'attaque au drone a été menée sans aucune présence militaire américaine au sol, a précisé un responsable américain, preuve de la capacité des États-Unis d'identifier et de localiser même les terroristes les plus recherchés au monde et de prendre des mesures afin de les éliminer. Le 3 février, le président Biden avait annoncé la mort du dirigeant du groupe État islamique, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, lors d'une opération conduite dans le nord de la Syrie.
L'annonce de ce lundi sur la mort de Zawahiri intervient près d'un an après le chaotique retrait d'Afghanistan des forces américaines qui avait permis aux talibans de reprendre le contrôle du pays 20 ans après. Comment a-t-on pu retrouver Ayman Zawahiri à Kaboul alors qu'on le croyait au Pakistan et qui était ce lieutenant et médecin d'Oussama Ben Laden? Rosine Mounessero fait le point.
Ayman al-Zawahiri avait été repéré à de multiples reprises et pour de longues durées sur le balcon où il a finalement été touché par la frappe dans la capitale afghane. Sa présence à Kaboul constitue par ailleurs une violation claire des accords conclus avec les talibans à Doha en 2020, selon lesquels les islamistes s'étaient engagés à ne pas accueillir Al-Qaïda sur leur sol, a noté un responsable américain. Introuvable depuis plus de 10 ans, il était considéré comme un des cerveaux des attentats du 11 septembre qui avait fait près de 3000 morts aux États-Unis. Impliqué dans l'assassinat en 1981 du président égyptien Anwar al-Sadat, Zawahiri est emprisonné pendant 3 ans puis rejoint l'Arabie saoudite et le Pakistan au milieu des années 1980 où il soigne les djihadistes combattant les soviétiques et rencontre Ben Laden. Longtemps à la tête du djihad islamique égyptien, il ne rejoindra Al-Qaïda qu'à la fin des années 90. Les États-Unis le mettent sur leur liste noire pour avoir soutenu les attentats contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie en août 1998. Il est également condamné à mort par contumace en Égypte pour de nombreux attentats, dont celui de Luxor, qui en 1997 avait fait 62 morts, dont 58 touristes étrangers.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le camp présidentiel et l'opposition ont chacun campé sur leur position lundi en affirmant avoir remporté les élections législatives de dimanche pendant que le décompte des voix se poursuivait. En Guinée, deux leaders d'un collectif ayant organisé des manifestations qui ont fait 5 morts, de nombreux blessés civils et militaires et d'importants dégâts matériels, selon le ministre de la Justice, ont été inculpés et écroués après être passés lundi devant un juge d'instruction. Omar Sylla, alias Fonike Mangé et Ibrahima Diallo font partie des dizaines d'interpellations effectuées lors des manifestations de jeudi et vendredi contre la junte au pouvoir. Au Soudan, le numéro 2 du pouvoir militaire, Mohamed Hamdan Daglo, a estimé hier soir dans un entretien diffusé par la BBC que le putsch d'octobre avait échoué, laissant entendre qu'il interviendrait si le pays se dirige vers le gouffre. Nathalie Barge.
Nous avons échoué à amener le changement, a affirmé en uniforme le patron des paramilitaires des forces de soutien rapide. La situation ne fait qu'empirer, a-t-il déclaré, citant l'arrêt de 2 milliards de dollars annuels d'aide internationale et le nombre élevé de manifestants tués, soit plus de 100 abattus par les forces de sécurité depuis le putsch, selon des médecins pro-démocratie. Interrogé sur une possible candidature lors des élections promises par le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, pour juillet 2023, le général Daglo a répondu ne pas avoir pour ambition de se présenter, mais si on voit que le Soudan se dirige vers le gouffre, on sera là, a-t-il ajouté. Début juillet, le général Burhan a dit qu'il s'effacerait devant un gouvernement civil sans pour autant convaincre les manifestants. Composé de miliciens janjaouides accusés d'atrocités lors de la guerre au Darfour, les forces de soutien rapide de Daglo sont aussi accusées d'être impliquées dans la répression de la révolte de 2019. Depuis la chute de l'ancien président Omar el-Béchir, le pays ne cesse de s'enfoncer dans le marasme économique. La valeur de la livre soudanaise a été divisée par 8 et l'inflation avoisine les 200%.
En Afrique du Sud, 4 manifestants ont été tués lundi par balle lors d'une manifestation contre la hausse des prix des services, notamment les prix de l'électricité. La police a ouvert le feu, selon les services de contrôle de la police. L'Iran s'est montré lundi optimiste quant à une reprise des discussions sur son programme nucléaire après l'examen d'un projet de compromis soumis par l'Union européenne et destiné à débloquer les négociations lancées en avril 2021 à Vienne et au point mort depuis mars. Précision de John Linden.
Nous restons optimistes sur le processus des négociations qui nous permettra d'aboutir à un résultat logique et raisonnable, a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans sa conférence de presse hebdomadaire. Cette déclaration intervient après que le chef de la diplomatie européenne et coordinateur pour le dossier du nucléaire iranien, Joseph Borrell, a soumis mardi dernier un projet de compromis et a appelé les parties engagées dans les pourparlers à Vienne à l'accepter pour éviter ce qu'il qualifie de dangereuse crise. Mercredi dernier, au lendemain de la présentation du projet européen, Téhéran avait appelé les États-Unis à montrer dans la pratique leur volonté de relancer l'accord nucléaire. Selon M. Borrell, le texte proposé aborde en détail la levée des sanctions imposées à l'Iran et les mesures nucléaires nécessaires pour rétablir le pacte nucléaire de 2015.
La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, est arrivée ce mardi en Malaisie, deuxième étape d'une tournée asiatique qui risque de faire monter les tensions entre la Chine et les États-Unis en raison d'une visite à Taïwan non confirmée mais de plus en plus probable. Pékin, qui considère l'île comme une partie de son territoire, a plusieurs fois mis en garde Washington contre une telle visite qui serait vue comme une provocation majeure. La Minute Éco, Nani Talani.
La communauté d'Afrique de l'Est vient d'inaugurer une voie longue de plus de 42 km qui doit désengorger le trafic dans les villes tanzaniennes d'Arusha et kenyanes de Moshi et promouvoir le commerce intra-régional. Les travaux ont été financés par le Fonds africain de développement, sponsorisé par la BAD, pour 217 millions de dollars. La structure va renforcer les échanges entre la Tanzanie et le Kenya et faciliter le commerce pour des pays voisins comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la RDC. En Algérie, l'Association des banques et des établissements financiers annonce la fin des restrictions sur les transactions commerciales avec l'Espagne, décidée début juin, pour protester contre le revirement de Madrid sur le dossier du Sahara occidental. Les mesures conservatoires, gel des opérations de commerce extérieur de biens et de services de et vers l'Espagne ne sont plus de mise, indique l'association. Pour terminer, l'OPEP se réunit demain mercredi pour poser les bases de sa nouvelle stratégie avec la question centrale de savoir ce que le cartel va faire de plus pour calmer la flambée des prix du brut. Selon des analystes, l'OPEP devrait prolonger l'accord actuel malgré les appels des États-Unis à un approvisionnement accru. Par ailleurs, le nouveau secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al-Gaïs, a déclaré que l'adhésion de la Russie à l'organisation est vitale pour le succès de l'accord.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Pas de mondial 2022 pour Tariq Tissoudali.
Oui, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, l'international marocain sera absent pour minimum 6 mois. Tariq Tissoudali manquera donc le mondial 2022 au Qatar. L'annonce a été faite par son club belge, la Gantoise. Le joueur de 29 ans s'est blessé lors de la rencontre du championnat de Belgique face à Saint-Trond, 1-0 samedi. Il a dû quitter le jeu à la demi-heure. Tariq Tissoudali a participé à la CAN 2022 sous les ordres du sélectionneur Vahid Halilhodžić. Celui qui compte 7 sélections avec les Lions de l'Atlas avait été double buteur en mars dernier lors des barrages pour le mondial 2022 face à la RDC.
Justement, les champions d'Arabie Saoudite et d'Égypte inaugureront le stade qui accueillera la finale de ce mondial.
Ce match opposera Al Hilal, champion d'Arabie Saoudite la saison dernière, à l'équipe qui sera sacrée championne d'Égypte, le championnat égyptien étant toujours en cours. Cette rencontre sera la dernière étape de notre voyage avant le grand coup d'envoi. Le 21 novembre, a déclaré Hassan Al-Tawadi, secrétaire général du comité d'organisation du mondial au Qatar. Le stade à l'armature dorée, doté d'une capacité de 80 000 places, est situé dans la nouvelle ville de Lusail, au nord de la capitale Doha. Il accueillera le match d'ouverture et la finale de la Coupe du Monde. Avant l'inauguration officielle, un match de championnat du Qatar entre Al Arabi et Al Rayyan sera organisé le 11 août.
Pour le Mondial 2030, lancement ce mardi de la candidature commune A4 en Amérique du Sud.
L'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay lancent leur candidature commune à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Ce mondial marquera le centenaire de la compétition dont la première édition a été disputée à Montevideo. L'officialisation de cette candidature commune sera faite au stade Centenario de la capitale uruguayenne où s'est jouée la finale de 1930 entre l'Uruguay et l'Argentine, remportée par les Uruguayens 4-2. La finale de 2030 serait disputée dans le même stade. En 1930, pour la première édition, seules 13 équipes participaient et l'ensemble du tournoi s'est joué dans la même ville de Montevideo et dans seulement 3 stades. En 2030, il y aura 48 équipes et l'organisation conjointe des 4 pays sud-américains, une première pour autant de pays, prévoit des matchs dans 15 stades.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des casques bleus de retour de congé en Ouganda ont ouvert le feu avant d'ouvrir la barrière et traverser la frontière congolaise au poste frontière de Kassindi à Beni dimanche. 2 personnes ont été tuées et 15 blessées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit outré. La MONUSCO a traité cette fusillade d'incident grave, inqualifiable et irresponsable, alors que le gouvernement congolais a condamné l'incident et a appelé la population au calme. Le drame a provoqué des manifestations dans le Nord Kivu. Reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
Selon les témoignages sur place, les soldats de l'ONU venaient de l'Ouganda et voulaient franchir la frontière avec la République démocratique du Congo. Les services gouvernementaux congolais travaillant à cette barrière ont bloqué le passage des casquets bleus. Ces derniers ont tiré des balles pour dissuader les services du poste frontière, puis ont cassé les cadenas et forcé le passage. Joël Kataoussa, vice-président de la société civile de Kasindi.
Des 14 personnes blessées et des morts. Ils sont blessés par balle. La MONUSCO a tiré à bout portant sur la paisible population. Et la population a essayé d'être aux aguets. Même les services de l'État n'ont pas ouvert les deux barrières, la barrière de la DGM et la barrière. Et la MONUSCO a cassé par balle tous les cadenas de ces deux barrières.
La population, qui était déjà en colère et contre la présence onusienne, considère qu'il s'agit d'un sabotage et d'une violation grave de la souveraineté du territoire congolais. Elle demande au gouvernement congolais de mettre fin à la mission de l'ONU en RDC. Pour sa part, Maître Eliva Umawa dénonce un comportement inacceptable au sein des casques bleus censés protéger la population. Il demande aux autorités congolaises et onusiennes de prendre des décisions qui s'imposent pour punir cet acte.
Celui qui combat la criminalité ne doit pas être criminel. Celui qui combat pour la justice doit être lui-même juste. Ce que ces petites brebis galeuses cachées au sein de la force onusienne viennent de faire, ça s'appelle un meurtre. Parce que ces gens sont censés dire protéger la population. Comment on peut nous envoyer une force hébergeant à son sein des gens qui nous tuent? Vous devez prendre des décisions qui s'imposent.
C'est lundi, au lendemain de ces graves incidents, des manifestations ont repris à Beni pour demander le départ immédiat des forces onusiennes. Dans un communiqué, la représentante du secrétaire général des Nations Unies à RDC et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, s'est dite profondément choquée et consternée par cet incident. Elle a rassuré que les auteurs de cette fusillade sont déjà aux arrêts et que les enquêtes ont d'ores et déjà commencé en collaboration avec les autorités congolaises. Par ailleurs, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, était à Goma ce lundi pour rendre hommage, avec l'absence remarquée des autorités congolaises, à 5 casques bleus tués la semaine dernière dans des manifestations contre la présence onusienne dans le pays. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir des opérations de maintien de la paix en Afrique. La tension est montée d'un cran ces derniers jours dans l'est de la RDC où des manifestations anti-MONUSCO ont fait des victimes parmi les populations et les casques bleus. Les protestataires reprochent à la force onusienne d'être inefficace face aux multiples groupes armés dans la région. Au Mali aussi, la mésentente entre Bamako et Abidjan a relancé le débat sur la présence de l'ONU dans le pays. Qu'est-ce qui explique ces tensions avec les missions onusiennes? Quel est leur avenir sur le continent? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Bénin, 30 prisonniers politiques ont été libérés mercredi dernier après avoir été détenus pendant environ un an. Leur libération est vue par certains comme découlant de négociations menées par les anciens présidents Nicéphore Soglo et Yayi Boni, mais aussi de la tournée dans le pays du président français Emmanuel Macron. Les Béninois s'en réjouissent et demandent à leur dirigeant Patrice Talon d'aller plus loin en libérant les leaders de l'opposition comme Rekia Madougou et Joël Aïvo. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criait à libérer une trentaine de personnalités et militants de l'opposition. Pour la plupart, ils ont été interpellés au lendemain de la présidentielle de 2021, accusés entre autres d'avoir tenté de déstabiliser le pouvoir. Pour certains Béninois, leur remise en liberté ne pouvait mieux tomber.
Moi, je suis vraiment content et je leur remercie.
La liberté n'a pas de prix. Dans cette famille, j'imagine la joie qui va animer tout le monde.
c'est une bonne chose. Un dirigeant doit écouter son peuple. Nous sommes contents que le président, après que le peuple a jugé que ce n'est pas bon et a demandé que ceux qui sont arrêtés à cause des élections politiques soient libérés, il les a libérés.
Et c'est une bonne chose. Ça donne la paix dans le pays. Ceux qu'ils ont libérés à eux-mêmes, ils vont prendre conscience d'eux-mêmes et savoir comment faire leur politique après.
Pour d'autres, les jeunes doivent retenir la leçon et cesser d'être des instruments dont se servent les politiciens.
Il faudrait que le jeune béninois accepte que la chose de l'État ne peut pas permettre le désordre dans un pays. Libérer, oui. Un temps passé dans les verrous, c'est un temps aussi d'apprentissage. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont appris? Si nous estimons que nos droits ont été violés, il faut écrire et saisir les autorités compétentes à travers les différentes cours qui existent.
Il va falloir qu'on éclaircisse un peu, n'est-ce pas, cette situation-là. Quand on est jeune, on n'est pas censé, n'est-ce pas, de suivre un mot d'ordre d'un homme politique. On est doté d'intelligence et on ne fait pas de n'importe quoi dans un état de droit.
Dans le rang de l'opposition, le geste est apprécié, même si on considère qu'il reste encore des opposants et pas des moindres derrière les barreaux. Judika El Rouanou est membre des Forces Corées pour un Bénin émergent, FCBE.
Et au parti FCBE, 30, c'est beaucoup, mais ce n'est pas encore tout. Il est encore derrière les barreaux et nous espérons que le chef de l'État qui a entrepris devrait pour la paix et la justice sera clairvoyante dans ces dossiers et afin que nos frères sortent derrière les barreaux.
Pour le premier vice-président du parti, les démocrates n'ont régné à Tchadé. Cette décision est la réparation d'une injustice et contribue à la décrispation du climat sociopolitique.
Là où il y a de l'injustice, il y a souvent des crises. Et pour éviter ces crises-là, il faut réparer l'injustice. Je crois que leur libération, ça participe à la réparation de l'injustice.
Cette vague de libération avait été évoquée lors de la conférence de presse conjointe donnée par le président Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron. Le président béninois avait pourtant dit qu'au Bénin, il n'y avait pas de détenus politiques.
Je conviens avec vous que c'est des gens qui ont agi dans le champ politique, mais les actes qui ont accompagné leurs revendications, si ce sont des actes délictuels criminels, les actes doivent être punis. C'est ce qui s'est passé.
Emmanuel Macron a également évoqué le cas de ces nombreux hommes politiques dans les îles. Pour Patrice Talon, rien ne les empêche de rentrer.
Ceux qui sont en exil, que moi je n'ai pas banni, ils ont choisi de ne pas répondre de leurs actes, ils ont fui le pays. Moi, je voudrais bien qu'ils rentrent, qu'ils défendent et que la justice les blanchisse.
Cependant, il a laissé la porte ouverte à toutes les possibilités en déclarant qu'il se pourrait que dans les temps à venir, que des actes de grâce ou d'amnistie soient pris pour ces personnes. De Cotonou, Jeanette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le président Paul Biya a ordonné la libération de Basile Atangana Kuna, poursuivi pour détournement de deniers publics. Alors qu'il était directeur général de la CAM Water, la société en charge du service public de l'eau potable, il est libre depuis vendredi dernier après avoir restitué le corps du délit. Mais c'est une remise en liberté qui fait polémique. De Yaoundé, le point avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Hilaire Kamga, juriste et membre de la société civile, entrevoit l'influence des réseaux étrangers derrière l'arrêt des poursuites judiciaires contre l'ancien directeur général de la CAM Water, Basile Atangana Kuna. Il était accusé d'avoir mis sur pied une société écran pour sous-traiter frauduleusement un contrat commercial entre la CAM Water et une société belge.
L'ordre de le libérer coïncide avec l'arrivée de M. Macron au Cameroun. Cela subodore simplement le fait que les réseaux plus puissants ont dû conditionner un certain nombre d'éléments par rapport à la visite de M. Macron, qui était quand même très attendu par Yaoundé, à la libération de M. Kuna, qui manifestement n'a pas une seule nationalité.
Faux, rétorque Maître Aïssi Atangana, avocat de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie.
La décision, elle est conforme, n'est-ce pas, aux dispositions de la loi. Le législateur a voulu qu'il en soit ainsi. Lorsqu'on a restitué, on peut bénéficier de l'arrêt de poursuite.
Autrement dit, lorsqu'on prend ce qui ne nous appartient pas et qu'on le rende par la suite, on ne peut être poursuivi. Le ministre de la Justice a donc ordonné le 27 juillet l'arrêt des poursuites judiciaires contre Basile Atangana Kuna sur instruction du président de la République selon une correspondance qui a fuité sur les réseaux sociaux. Francis Simeux, expert en gouvernance, évoque deux éléments qui portent à confusion dans cette affaire.
Le fait que la justice doit se soumettre à une autorisation écrite du ministre de la Justice et de deux pour le cas de M. Atangana Kuna, il avait cherché à se soustraire dans le cadre du droit pénal. C'est même une circonstance qui rend la procédure plus complexe.
Le 23 avril dernier, M. Basile Atangana Kuna a reversé le corps du délit au trésor public, soit 1 milliard 265 millions de francs CFA. Pour ce jeune chef d'entreprise, la bonne foi de l'ancien ministre est à saluer.
Nous ne gagnons pas à ce que ces hommes et ces femmes, ce qu'on appelle les voleurs à col blanc, remplissent nos prisons pendant que l'État n'entre pas en retour avec cet argent.
Basile Atangana Kuna est devenu entre-temps ministre de l'eau et de l'énergie. Entre 2009 et 2018, avait tenté de fuir le Cameroun au cours de cette année. Arrêté au Nigeria, il a été placé en détention dans le cadre de l'opération dite Opervier pour lutter contre la corruption. Pour Hilaire Kamga, cette opération est bafouée dans la pratique au fil des années.
La libération de M. Atangana Kuna est encore une opération qui elle-même était déjà édulcorée au niveau conceptuel. Qu'il n'y a rien à attendre de l'opération Opervier, qu'on arrête, qu'on le garde en prison, que ceux dont le rapport de force dans le débat dans les réseaux ou les mafias est en position de faiblesse.
Plusieurs hauts dignitaires du pays sont en prison dans le cadre de l'opération Épervier. Certains sont passés par des procès interminables, d'autres sont morts en détention. Yaoundé, Emmanuel Jemtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Il était pour sa famille le gagnant le plus prolifique de l'histoire du sport américain et pour l'ancien président Barack Obama, un géant. Bill Russell, sacré 11 fois champion NBA avec les Celtics de Boston et défenseur des droits civiques, est décédé hier. L'Amérique lui rend hommage, davantage avec Yacouba Ouédraogo.
Sur le terrain, c'était un défenseur d'exception, excellent en ce qu'on appelle one-on-one defense, donc en défense directe et également dans la protection du panier. Donc, il était effectivement la grande star des années 50 et 60, mais également le plus important, je crois, en ce qui le concerne, y compris sur le terrain, c'était ses qualités de leader. C'était vraiment un véritable leader. Il organisait et lançait l'attaque à partir de ses qualités défensives. Donc c'était un véritable meneur de jeu, même s'il n'était pas, bien entendu, dans une position technique de meneur de jeu.
L'autre facette de Bill Russell qu'on retient, c'est cet homme, aux côtés de Martin Luther King en 1963, qui prononçait son fameux discours « I have a dream ». Quel a été le rôle de Bill Russell justement à cette époque-là dans la lutte pour les droits civiques?
Il a joué un rôle extrêmement important, d'abord parce qu'il a été lui-même victime des horreurs et des affres du racisme, y compris dans son club de Boston. Il a eu des tas de problèmes, il a été insulté, il était maltraité par les supporters, mais y compris aussi des attitudes haineuses et insultantes de la part de ses coéquipier blanc. Quand il était en voyage avec son équipe, il arrivait souvent d'avoir des problèmes dans les restaurants où on ne voulait pas le servir et où il ne pouvait pas non plus pêcher dans certains hôtels où les autres blancs de son équipe étaient acceptés. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de tout cela, comme tous les noirs à l'époque, mais ça l'a fortifié et comme vous l'avez dit, il s'est beaucoup engagé dans le mouvement des droits civiques. Il a été proche de le boxeur Mohamed Ali et quand s'il y a eu des problèmes, il a été vraiment un membre actif du Black Power Movement.
On parle souvent de l'engagement des sportifs, notamment des basketteurs, dans la lutte pour les droits civiques. Lorsque vous le comparez à un garçon, par exemple, comme la légende du basket, Michael Jordan, les gens trouvent que Bill Russell était meilleur dans la défense, bien sûr, des droits civiques.
Michael Jordan était un compétiteur hors pair, peut-être le plus grand compétiteur que le sport n'ait jamais vu, mais ce n'était pas du tout quelqu'un d'engagé, c'était quelqu'un qui était sur des positions purement personnelles, égocentriques, diront certains, et all about comme on dit souvent de manière un peu ironique le concernant, que tout était à propos de lui seul, il voulait gagner à tout prix.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia. à la mise en onde Fatouma Kalala Alimassi, à la console Jonah Cummings. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.